7h15, parlons des augmentations de loyers. C'est le débat annuel entre propriétaires et locataires.
Oui, et on aurait quelqu'un du Frappier avec nous, puis l'Association des propriétaires ou la Corpic, puis on aurait un débat où on aurait un discours qui est sensé des deux côtés, dépendant de certaines réalités. Tu sais, si on regarde, par exemple, présentement, la Régie du logement nous dit « Un logement non chauffé, vous devriez vous attendre à 1,2% d'augmentation, évidemment, pas s'il y a eu des travaux majeurs. » Parce que s'il y a des travaux majeurs, il y a le droit de redonner au locataire une partie de l'augmentation. Et dépendant des taxes foncières, parce qu'il y a des quartiers où il y a des énormes augmentations de taxes foncières, et ceux qui vivent dans un appartement où l'immeuble a été acheté ou rénové récemment, veut pas, la ville est allée passer à go réclamer de l'argent. Tu sais, moi, j'ai rénové pour un locataire récemment, puis la ville ou la commission scolaire m'a renvoyé un 36$ de plus, parce que là, on a réévalué que vous deviez 36$. Donc, tu vois, le propriétaire vit ça. Mais le dilemme à Montréal, c'est qu'il y a plusieurs réalités. Disons que je peux catégoriser ça de façon un peu caricaturale en trois catégories. T'as des gens qui sont chanceux, vivent avec un propriétaire qui est là depuis 40 ans, que son immeuble est payé, puis il veut juste la paix, puis il veut un locataire bien tranquille, puis il se fout un peu du rendement qu'il perd ou peu importe. T'as l'autre côté du spectre, un jeune couple de propriétaires qui viennent de payer un prix avec une prime de 50-60 000 sur la valeur du marché, l'immeuble est à rénover, ils ont pas une scène, puis ils sont pris avec des loyers pas chers ou chers, mais il faut qu'ils augmentent le loyer. Et t'as aussi l'autre catégorie, les espèces de propriétaires corporatifs qui, eux, ont des 50, 100, 200 portes et qui, pour eux, l'entretien d'un immeuble, c'est minimal parce qu'ils calculent que la régie ne leur permet pas d'augmenter le loyer à la juste valeur de ce que ça leur coûte. Effectivement, la Corpic nous a parlé cette semaine, là, quand tu fais des rénovations majeures, avec les augmentations de loyer permises, tu t'en sors pas, ça va te prendre plus d'années à te rentabiliser, sans compter le rendement que tu perds avec l'argent, que la durée des travaux. Donc, il y a quelque chose qui fonctionne pas dans notre système, et je t'en ai souvent parlé, on se retrouve à Montréal avec une dichotomie immobilière. D'un bord, tu as des condos avec des échangeurs d'air R20 d'isolation, puis de l'autre côté, tu as des immeubles en décrépitude qui ont 100 ans, 50 ans, 80. Et le marché tout mélangé, puis avoir une information pure et parfaite là-dedans, c'est difficile. Et comme locataire, cette année, gardez votre logement. Ça va être très difficile d'en trouver un autre à un prix raisonnable. Donc, le système de régie du logement va faire en sorte que les gens vont peut-être aller contester leur augmentation, mais le régisseur à la régie du logement, il applique les règles. Si ton propriétaire a fait des rénovations, il t'augmente en fonction des factures. Puis, s'il te demande une augmentation raisonnable, il va y accorder. Donc, s'il vous plaît, on va pas aller devant la régie pour 10$ d'augmentation, engorger le système, alors que ça respecte les calculs de la régie.
Ça va être intéressant à suivre quand même.
Oui, mais c'est quand même difficile pour
vrai. C'est parce que pour un locataire, là, quand tu es sur le marché, en fait, que tu cherches un logement, là, à Montréal, là, on le dit souvent, là, tu sais, si tu es une famille de quatre,
Bonne chance,
certain. Juste de trouver, on parle même pas du prix, là, juste de pouvoir trouver.
Bien, trouver, tu sais, un logement avec plus... L'affaire, là, c'est que les logements de plus de deux chambres...
Mais écoute, je te
donne... Donc, trois chambres, quatre chambres.
Un exemple, il y a quelqu'un qui m'a écrit, qui magasine pour se trouver un logement, et il voit une annonce, appelle le propriétaire pour organiser un rendez-vous, puis l'annonce, là, je te donne les chiffres à peu près, là, c'est 1300 pour le logement, par mois.
OK.
Fait qu'il se rend sur place, et là, le propriétaire lui dit, puis est-ce que le logement vous intéresse? Il dit, certainement, oui, correct, je vais le prendre. Bon, mais c'est 1375. Il dit, non, vous m'avez dit 1300, c'est ça votre annonce. Ben, il dit, il y a une rareté, j'entends ça aux nouvelles, là, fait que j'en profite.
Écoute. Dans ce temps-là, tu signes à 1375 et tu sais que tu peux retourner à la régie pour dire, hey, il y a une augmentation significative par rapport à l'ancien bail.
Je le sais, mais tu sais, quand même.
Mais l'affaire aussi, c'est que les beaux logements, c'est souvent les logements du premier étage, les plus grands pour les grandes familles. Mais t'es le premier à te faire kick-out parce que quand le logement est pas assez élevé, le propriétaire du building dit « Hey, c'est assez de perdre de l'argent, je vais le vendre. » Le nouvel acheteur veut vivre au premier étage pour sa famille et le locataire est évincé. Donc, les grands logements, c'est en voie de disparition parce que c'est beaucoup plus rentable de louer deux petits logements qu'un grand logement. Donc, le constructeur et les acheteurs d'immeubles locatifs sont orientés vers ça.
Hey! Parlons du Dieselgate, Volkswagen qui va payer 196 millions. L'argent va à qui exactement?
Hey, ça, c'est une bonne question. Hein? Mais ça doit être au gouvernement, hein? Parce que le gouvernement, c'est lui qui prend les systèmes de santé, puis la pollution de l'air, puis les impacts. Mais moi, j'ai quand même été voir aujourd'hui deux choses. Un, l'action. Tu sais, on s'est dit, ah, la Dieselgate, ça a tué Volkswagen. Oui, oui, ça a... Effectivement, au niveau de l'action, on était passé de 235 euros en 2015 à près de 120 euros. Puis là, on est revenu à quoi? 178, 180. Mais la crise financière de 2008-2009, on était passé de 352 euros à moins de 70 euros. C'était bien plus majeur. Donc, quand tu regardes le Dieselgate, oui, ça fait mal à Volkswagen. Ça fait perdre du rendement aux actionnaires. Puis là, tu te dis, regarde, ils ont des pénalités. Regarde, là, ils vont régler là, au Canada pour 196 millions de dollars. Là, je suis allé voir les états financiers, Paul, pour les taquiner un petit peu. Et on se rend compte que pour, disons, 9 mois, tu sais, Volkswagen a généré quand même, après impôt, seulement 11 milliards de bénéfices. Donc, la pénalité va être gérable au Canada, si on en voit ailleurs. Mais l'autre chose qui est intéressante, pendant que j'étais là, j'ai regardé comment Volkswagen fait son argent. Et il y a deux grandes divisions chez, dans le groupe Volkswagen. Il y a Automotive puis Financial Services. Et ça, c'est intéressant. Tu te rends compte que sur les 11 milliards de profits pour 9 mois, parce qu'on n'a pas encore 12 mois, là, il y en a 1,7 que c'est les Financial Services. Ce qui veut dire que lorsque vous me dites que le financement d'auto coûte presque rien, puis que c'est du 0,9% ou du 1% ou du 2%, puis que dans le fond, le financement est presque gratuit, ben les états financiers ne mentent pas. Et les compagnies automobiles sont obligées d'imputer au prix de la voiture le réel coût de financement qui est inclus au départ dans la voiture. Et donc, ce que les états financiers nous montrent de Volkswagen, c'est que vous êtes très payant quand vous achetez une voiture sur 3, 4, 5, 6 ans et que vous êtes financé, soit dit en passant, 3-4%. C'est peut-être pas tout à fait la réalité.
Merci, monsieur. Bonne journée.
Salut.
7h20.